Là maintenant, ça va faire 2 mois demain que c'est arrivé. Et tous les jours, il y a quelque chose qui me rappelle, voilà, qu'il est plus là, qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas faites et plein de choses que nous ne ferons jamais.
J'ai perdu mon épouse récemment, c'était le 1er mai de cette année 2010. Est-ce que c'est trop court? Est-ce que c'est trop près encore du décès? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai fait mon deuil? J'en sais rien. Est-ce que je suis libéré? J'en sais rien. Je pense toujours à ma femme, bon, mais j'y pense tout le temps, c'est un fait.
Vous voyez les gens qui vous disent... Oh ben ça va, depuis il y avait 6 mois qu'elle était veuve, mais ça va maintenant, elle a repris le dessus. En réalité, les gens ne voient pas la vérité. Ils ne voient pas à quel point on est détruit. Maintenant, il y a 50 ans.
Vivre sans lui... Sans elle, par Sonia Leglen.
Même si je suis entourée par la famille, les amis, l'entourage, malgré tout, je me sens quand même très seule. Parce qu'il est plus là et que... Voilà, ça faisait plus de 11 ans qu'on était ensemble et j'étais trop habituée à ses marques d'attention, à sa présence, à ses coups de fil dans la journée, même si la journée n'était pas là. Et j'avais quand même ces petites marques d'attention envers moi. Et là, le fait de ne plus rien avoir du tout, forcément, je me sens très seule. Et donc, quelque part, forcément, j'ai envie que les gens m'envoient des petits messages ou m'appellent pour me montrer aussi, quelque part, que j'existe encore. Parce que là, je... Il n'est plus là et donc j'ai perdu une très grosse partie de moi et ouais, j'ai l'impression de ne plus exister. Toutes ses affaires sont encore à la maison. Ses chaussures sont telles qu'il les a laissées dans le placard de l'entrée avec ses blousons, ses gilets, ses vestes, ses manteaux. Dans la salle de bain, il y a encore sa brosse à dents, son rasoir, le pyjama qu'il a porté cette nuit-là. Tout est resté en place comme si... Ouais, comme s'il allait revenir, alors que je sais très bien qu'il ne reviendra pas, mais quelque part, c'est le garder présent avec moi. C'est le garder présent avec moi parce que j'ai encore besoin de le sentir avec moi, et j'aurai toujours besoin de le sentir avec moi. Je conçois pas de ranger ses affaires dans un carton, dans un coin du placard. Non, j'ai besoin de voir ses affaires, besoin de voir ses vêtements... Besoin de voir les photos qu'il y a à la maison où on est tous les deux.
Et tu t'es mise à conduire sa voiture aussi ?
Oui, je ne conduis que sa voiture. Je ne conduis que sa voiture parce que on avait pris sa voiture la veille et donc un de nos derniers moments, on les a passés voilà, dans cette voiture. C'est avec cette voiture que nous sommes partis en vacances. Voilà, c'est être encore un petit peu avec lui. Donc, je ne conduis que sa voiture. À une époque, je n'écoutais que ses CD. Là, depuis 2 semaines, depuis une dizaine de jours, je ne peux plus. Je ne peux plus les entendre. Même quand ça passe à la radio, je ne peux plus parce que ça fait trop de mal. C'est encore prendre en pleine poire qu'il n'est pas là. Qu'il n'est pas là.
Actuellement, j'ai des difficultés pour m'en sortir, évidemment. Mais bon, je finis par admettre la réalité, c'est tout. Maintenant, tout ce que j'espère, c'est qu'elle est bien là où elle est. Au moins, elle ne souffre plus. Mais bon, c'est pas vivable. Pour ceux qui restent, c'est pas vivable. Je suis là 20 heures par jour. Comment voulez-vous, j'y pense pas. Puis même quand je m'en vais, elle est en permanence présente dans ma tête. C'est aussi pour ça que je ne veux pas aller sur sa tombe, c'est pas la peine d'y aller. C'est pas la peine d'aller là où elle repose pour penser à elle. Moi, en rester ici, je l'ai en permanence dans la tête. Même si j'ai enlevé toutes les photos d'elle, il n'y a pas un instant où je pense pas à elle, non. Même quand je fais le ménage. Qu'elle me disait, oui, t'as fait le ménage, t'as passé ici, t'as pas ici, mais t'as pas été dans ce petit coin. Même quand je fais le ménage, j'y pense.
C'est quoi le plus difficile? C'est d'admettre qu'il n'est pas là, c'est de se sentir seul.
C'est d'admettre qu'il ne sera plus jamais là. Se sentir seul, hein. Je me dis, il m'aurait quitté, je ne sais pas, parce qu'on ne s'aimait plus, parce qu'il m'aurait quitté pour une autre femme. Je me dis que je pourrais me battre. Je pourrais me battre pour le récupérer, je pourrais me battre contre une autre femme. Alors que là, je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Donc si je me sentais seule mais qu'il était ailleurs, voilà, j'aurais cette force de me battre. Alors que là, je me sens seule et je ne peux pas me battre. Donc le plus dur, c'est d'admettre qu'il n'est plus là, qu'il ne sera plus jamais là. Ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Admettre qu'il faut continuer à vivre sans lui, réapprendre à vivre sans lui et que je vais vieillir dans notre maison sans lui. Ça, c'est... On avait tellement de projets pour nous, pour notre vie de couple, notre vie de famille, pour notre maison, que là, maintenant, c'est tout continuer sans lui. Et ça, c'est le plus dur. Voilà. Admettre qu'il va falloir tout faire, toute seule, parce qu'il n'est plus là. C'est parce qu'il n'est plus là.
Novembre. Solitude égale n'avoir personne chez soi à qui pouvoir dire je rentrerai à telle heure ou à qui pouvoir téléphoner dire voilà, je suis rentré.
Ce qu'il y a, c'est quand vous perdez quelqu'un brutalement, vous avez encore toutes vos forces intactes. Les gens qui attendent quelqu'un mourir pendant des mois à la suite d'une longue maladie, ça doit s'émousser peu à peu. Mais quand on a une mort brutale, on a encore toute sa force en soi pour rebondir malgré tout. Mais c'est après, les années d'après, qu'on sombre, vous voyez ça. Peu à peu, c'est là qu'on arrive à réaliser, parce qu'on ne réalise pas bien dès le début. Et puis, on perd ses facultés de... C'est une période très, très pénible. Il faut des années et des années avant de retrouver le courage de s'y recoller. Après, vous avez les enfants qui sont ados. Alors, c'est encore... On dit si le papa était là... Ça m'obligeait à être assez dure parce que je savais qu'il ne reviendrait jamais et qu'il ne fallait pas céder sur certains points. Alors ça crée des tensions. C'est assez dur d'avoir des enfants tout seul.
Ah,
Vous avez quelqu'un avec qui vous arrivez à en parler de tout ça?
J'en parle avec ma fille de temps en temps, mais bon, j'évite le sujet. Moi, avec mon fils, je n'en parle pas du tout parce que je n'en ai au téléphone que le dimanche, puisqu'il habite à Paris. J'en parle avec mes amis, le peu d'amis qui sont restés en contact avec moi, parce que certains m'ont un peu abandonné. Maintenant, ce qui est arrivé, on ne peut pas revenir en arrière. Donc maintenant, il faut que je supporte. Je me sens responsable, malgré tout. Malgré que je ne devrais pas, mais je me sens quand même responsable. Le psychiatre que j'ai vu lorsque je suis allé à Dinan, dans un séminaire, donc la vie après le deuil du conjoint, le psychiatre m'a expliqué que je ne devais pas m'en vouloir. Ce qui est arrivé, mais bon, ce n'était pas de ma faute. C'est elle qui était malade, c'est pas moi. Je ne l'ai pas poussée, évidemment. Et il me dit surtout de ne pas m'en vouloir. Que j'étais au contraire quelqu'un de qui a fait tout ce qu'il a, j'ai pourtant fait tout ce qu'il a pu, tout ce que j'ai pu pour elle, mais bon, j'y suis pas arrivé, comme les médecins d'ailleurs.
Alors j'ai toujours quand même eu un sentiment de responsabilité, puisque c'était moi qui étais au volant ce jour-là, et ça, vous le traînez toute votre vie. Je me dis, si seulement il avait repris le volant avant, eh ben, ça ne serait pas arrivé. Mais on ne retourne pas en arrière, il n'y a rien à faire.
Le 20 mars 1978. On dit, me dit Madame Panzera, le temps apaise le deuil. Non. Le temps ne fait rien passer. Il fait passer seulement l'émotivité du deuil.
Ça me fait peut-être du bien d'en parler. C'est peut-être ça, ma thérapie. Mais je voudrais passer à autre chose. Je voudrais vivre. Maintenant, il faut que je vive. Il faut que je réagisse. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je rencontre du monde. J'ai l'intention de rencontrer quelqu'un et il faut absolument que je m'en sorte. Si je vis encore 20-30 ans, je vais pas rester encore 20-30 ans renfermé sur moi-même. Il n'y a pas question. Je suis un battant, je vais me battre.
Et vous n'avez jamais pensé à vous remarier ?
Ben, penser, c'est une chose, mais faire, c'est autre chose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Mais vous savez, j'étais tellement absorbée pour élever mes enfants que, puis finalement, vous savez, une femme qui a des enfants, vous savez, on ne lui court pas trop après. Hein. Si, pour autre chose, mais pas pour le mariage. Hein, ça. Alors, je suis toujours vue plus loin que... J'ai toujours pensé à l'avenir. Je me disais, c'est bien joli... Si je prends quelqu'un qui prend mes enfants en grippe, qu'est-ce que je fais ? À l'époque, on se mariait. On ne se mettait pas comme ça ensemble, on se remariait. Alors, je me disais, si je fais une boulette, comme on dit, c'est mes enfants qui... Qu'est-ce que je ferais ? Il y en a, ils sacrifiaient leurs enfants, leurs nouveaux conjoints. Et puis, je n'ai pas eu le temps d'y penser trop aussi, parce que j'élevais mes enfants, je travaillais, ma foi. C'était dur, mais... J'avais peur de me tromper quand même. Et puis, il n'y en a pas tellement, vous savez, qui sont venus me demander un mariage. Hein. Il n'y en a qu'un. Et encore, il était vieux, et puis il avait, lui, 6 enfants. qui était élevé depuis longtemps, mais enfin, alors il aurait, je pensais, il faudrait recevoir les enfants, il faudrait peut-être, si j'en avais pris un qui avait des enfants, il aurait fallu aussi les prendre. Si j'avais pris un célibataire, il aurait peut-être pas compris ce que c'était que d'avoir des enfants. Enfin, je vous assure, j'ai, peut-être que j'ai un peu ruminé les choses, mais ça m'a pas quand même traumatisée au point d'avoir des regrets. Je ne regrette rien. J'ai ma liberté, je fais ce que je veux, j'ai la chance de pouvoir vivre à peu près bien. Je ne regrette rien.
Là, vous, c'est le livre dont...
Ah, ça, c'est un livre, ça, c'est autre chose. Hein. C'est un livre que je viens de recevoir de quelqu'un qui a connu mon mari jadis. Et quand j'ai su, il est à Paris. Et quand j'ai su par une ancienne voisine à lui et une ancienne voisine de mon mari qu'il avait écrit ça et qu'il parlait de mon mari là-dedans, oh là, j'ai dit, je voudrais bien lui acheter. Parce que mes enfants qui courent toujours après leur père, ils auraient surtout la grande. Et elle lui a téléphoné, il n'a pas perdu de temps, il me l'a envoyé aussi sec. Alors je commence juste à le lire. Là.
Qu'est-ce que c'est en fait ?
Lui, c'est ses souvenirs d'enfance qui sont beaucoup mêlés avec mon mari qui était son voisin.
D'accord.
Il croit que je me rappelle de lui. Je ne vais pas le vexer, mais je ne me rappelle pas du tout, du tout, du tout. Attendez, je vais prendre une petite assiette pour moi. Ça sera moins que de vous offrir tout bêtement un truc. Vous aimez le citron, oui ?
Oui, beaucoup.
Qu'avez-vous ?
Merci. Et qu'est-ce que vous faites comme activité ? Vous m'avez dit...
J'ai une heure de gym par semaine. Je vais à la piscine. La piscine est à côté. Toutes les semaines, là, je vais à la piscine, le mercredi. Alors, comme j'étais randonneuse, j'ai fait beaucoup de montagnes. J'ai des souvenirs formidables. Et c'est à la retraite que j'ai vécu vraiment, vous voyez. À la retraite.
Avec Alexandra, Patrick et Yvonne. Extrait de Journal de deuil de Roland Barthes. Lecture Nicolas Glorieux. Merci aussi à Marie-Josée et Marie-Pierre. Un documentaire de Sonia Leglen. Master 1 Créadoc, novembre 2010, Angoulême.